Période de l'âge de fer, on a vu les différentes terminologies possibles de cette période qui correspond grosso modo, si vous voulez, à l'époque des juges jusqu'à la mort de Salomon, c'est-à-dire à peu près toute la période des juges et de la monarchie unie. Et donc nous avions vu qu'à cette période-là, à cause du chevauchement des cultures, la céramique, la poterie, ne permettait plus d'être un repère chronologique sûr, comme c'était le cas pour les périodes précédentes, et que par conséquent, on était obligé d'amener des correctifs à cette chronologie, notamment par l'architecture. L'architecture, donc, qui, à cette période, connaît un essor nouveau, et notamment à cause justement de l'apport des peuples étrangers, notamment justement des peuples de la mer. Et apparaît notamment sur le plan militaire, nous avons vu ça la dernière fois, nous étions arrêtés là-dessus, une nouvelle forme de fortification qu'on appelle fortification casemate. Fortification ainsi appelée parce que justement elle comprend deux rangées de murailles parallèles reliées par des refends perpendiculaires, disons, avec évidemment des redoutes et des tours, des avancées, si vous voulez, pour que les défenseurs puissent éventuellement croiser les feux. Cette technique donc est introduite par les Philistins. On trouve des fortifications de ce type à l'époque justement en Anatolie et dans tout le bassin méditerranéen d'une manière générale. Et ce type de fortification va se généraliser et va être aussi adopté, notamment justement par David et Salomon, plus exactement par Salomon d'ailleurs. En fait, déjà, on trouve des ébauches de ce type de fortification dès le début de la monarchie unie, ça veut dire essentiellement à l'époque de Saül, et notamment le plus ancien type de fortification casemate se trouve à Tell el-Ful, à quelques kilomètres au nord de Jérusalem, dans ce que la Bible appelle Givat Binyamin, qui était un endroit où les Philistins avaient une forteresse dans la montagne, qui leur permettait justement, c'était un endroit stratégique, qui leur permettait de contrôler la route, si vous voulez, la route des Crêtes, hein, qui allait depuis Hébron jusqu'à Sichem et puis la vallée d'Israël, par Dothan, Jénine, etc. Et puis les routes transversales qui passaient depuis la plaine côtière, la Shphéla, franchissaient les Crêtes à cet endroit-là, redescendaient de l'autre côté de la montagne dans le désert de Juda en direction de la mer Morte et puis la Transjordanie. Donc Tell el-Ful, Giva, ça veut dire tout simplement la colline, hein, était un endroit stratégique important. Et donc les Philistins y avaient introduit une des rangées de forteresses qu'il y avait sur toute cette route. La Bible nous dit qu'il y en avait une autre aussi à Michmas. On a retrouvé aussi d'ailleurs les ruines de cette période. Et donc dans d'autres endroits où il y avait des endroits stratégiques que les Philistins voulaient surveiller. À Tell el-Ful, forteresse philistine, déjà en casemate, a été détruite d'une manière violente, donc vraisemblablement par les Israélites et notamment par Saül au moment où il s'est révolté contre les Philistins. Et l'on sait par la Bible que Tell el-Ful, Giva, est devenue ensuite la capitale du royaume de Saül. L'endroit s'était situé donc dans le pays de Benjamin, qui était la tribu dont Saül était originaire. Et donc, il a utilisé d'une part la situation stratégique de l'endroit, et en même temps aussi, bien sûr, le fait que cet endroit avait déjà été fortifié et il suffisait de le reconstruire pour en faire sa capitale. Saül était finalement une espèce de une transition, disons, entre le juge, c'était à la fois un juge, si vous voulez, ça veut dire essentiellement un homme de guerre qui avait pour but lutter contre les Philistins, qui étaient l'ennemi essentiel d'Israël à cette période, mais on peut dire qu'en principe, il aurait dû être un juge héréditaire, et c'est en cela justement qu'il était un roi. En fait, il n'en sera rien, et finalement, bien qu'il portait le titre de roi, Saül sera davantage un juge, il sera plus dans la lignée des juges que véritablement dans la lignée des rois. Saül vient au pouvoir à une période de danger national, comme c'était le cas pour les juges, justement, au moment où les Ammonites, qui sont alliés avec les Philistins, et qui sont de l'autre côté du Jourdain, eux, en Transjordanie, vont s'emparer d'une des villes israélites qui est plus au nord, donc le pays de Guilad, qui est israélite depuis, évidemment, la conquête par Moïse. Le premier exploit militaire de Saül, par lequel il va s'imposer comme, comme leader charismatique, disons, dans la tradition des juges, sera justement cette délivrance de Gavesh en Gilad, de la main justement des Ammonites. Et donc on retrouve les mêmes formules que celles qu'on a pour les juges. L'Esprit du Seigneur saisit Saül et il convoque tout Israël. Donc ici, on a à la fois donc, la répétition de ce qui se passe à l'époque des juges, le peuple qui est mobilisé par l'homme de Dieu. Ça veut dire que chaque tribu, chaque clan doit fournir un certain contingent, donc des élèves à la FIM, des milliers, les centaines et les milliers d'Israël, sous la direction des Aloufim, donc les chefs de mille, les chefs de cent, bon. Un contingent par, selon l'importance du clan. C'est le peuple en armes donc, qui est convoqué et qui, en fait, lorsque la victoire est remportée, retourne à ses tentes, comme le dira d'ailleurs le cri aussi qui mettra fin à la monarchie unie, à tes tentes Israël. Bon. De ce fait, si vous voulez, dans les périodes de paix, et c'est justement le gros problème qui marque l'époque des juges, le peuple est sans défense. Il n'y a pas d'armée régulière. Et la grande innovation qui va être celle justement de Saül, c'est qu'il va, à côté de l'armée de conscription qui est appelée en temps de crise, comme ce fut toujours le cas depuis l'époque de Josué, Saül va créer une armée de métiers. Une armée de métiers qui va être beaucoup plus d'ailleurs une garde prétorienne qu'une véritable armée et qui sert de noyau à l'armée de conscription. Ça veut dire que en cas, disons, dans l'état endémique de guerre dans lequel le pays se trouve, cette armée est suffisante pour faire face aux différentes menaces que le pays connaît. Mais dans des cas particuliers, notamment par exemple, ce sera le cas lors de la bataille de comment ça s'appelle, entre David et Goliath, le nom m'échappe, peu importe, enfin vous connaissez l'épisode. Bon, là, il y a une attaque générale des Philistins. Donc, là, il y a mobilisation générale de l'armée de conscription. Et c'est ainsi que les frères de David sont mobilisés dans l'armée, donc, qui doit se battre dans la Shvéla. Même chose au moment de la bataille de Gilboa. La bataille de Gilboa, c'est la bataille contre non seulement l'armée de métier, mais également contre l'armée de conscription qui est convoquée par le roi en cas de crise nationale généralisée, de crise grave. L'armée de Saül est donc finalement une garde prétorienne, disais-je tout à l'heure, beaucoup plus qu'une armée véritable, puisqu'elle est composée d'un noyau de 600 hommes. Bon, 600 hommes semble être un chiffre plus ou moins symbolique, hein. Par exemple, il y a 600 à la FIM lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte. Alors justement, c'est tout le problème aussi de la traduction d'Eleph ou Aleph. Eleph, ça signifie 1000. Donc si vous voulez, si on prend ça dans le sens de 600 000 personnes, ça veut dire il y a 600 000 guerriers qui sortent d'Égypte. Ça semble un peu beaucoup. Ça semble un peu beaucoup. Si on trouve des élèves, élèves, c'est finalement une unité de clan, qui peut ne pas obligatoirement, d'ailleurs, compter obligatoirement 1000 hommes. Hein, comme on dira, je ne sais pas moi, une compagnie ou une cohorte chez les Romains, etc. Bon, c'est un terme, c'est une terminologie militaire, un bataillon, un régiment, etc. Bon, le nombre de soldats dans un régiment varie finalement selon la fonction du régiment, selon l'armée dans laquelle il sert, etc. Bon, c'est une unité tactique finalement, hein. Alors une élève, c'est peut-être justement simplement une unité tactique. Et donc il y avait 600 à la FIM, 600 unités tactiques dans l'armée de conscription qui est sortie d'Égypte, hein, et qui a donc mené les guerres pendant tout le temps du désert et aussi bien entendu au moment de la conquête sous Josué. Il semble justement que cette division en 600 se soit retrouvée aussi à différents échelons de l'armée, non seulement à l'échelon des élèves, mais aussi finalement des méotes, c'est-à-dire des centaines, hein, les centuries, finalement, c'est le même phénomène que ce qu'on trouve dans l'armée romaine. Une centurie, en principe, c'est 100 hommes. Enfin bon, l'armée romaine, il n'y avait pas 100 hommes obligatoirement, pas un de plus, pas un de moins. Dans une centurie, c'était un terme aussi, un terme de tactique militaire. Parce que justement, on retrouve aussi dans l'armée de David, ensuite, on retrouvera 600, on appelle comment les Giborés David, les héros, les vaillants hommes, les preux de David, ça dépend comment, qui semblent avoir été justement des chefs militaires, des chefs militaires qui servaient dans une armée de métier, mais justement, cette armée de métier pouvait éventuellement encadrer l'armée de conscription. Ça veut dire que si vous voulez une unité de 10, par exemple 600, servait à encadrer un certain nombre d'alafim. Ça veut dire un certain nombre de contingents qui étaient mobilisés sur les clans et les batailles à vote qu'il pouvait y avoir dans telle et telle tribu. Hein. C'est un petit peu d'ailleurs le principe qui est celui de la mobilisation de l'armée d'Israël aujourd'hui, où l'armée de métier est relativement petite, hein, plus l'armée, le contingent, hein. Mais l'armée de métier, en tout cas, a pour fonction d'absorber, d'encadrer, hein, l'armée de réserve lorsque, justement, il y a une situation de crise nationale. Très intéressant, d'ailleurs, de noter que ce principe de la mobilisation d'Israël qui permet, justement, de mobiliser les réserves en quelques heures, et ça a été salutaire au moment de la bataille du Kippour, a été mis au point, justement, par le professeur Yigal Yadin quand il était chef d'état-major général de l'armée d'Israël, mais Galiadine était essentiellement un archéologue, et il a repris ce modèle directement de la Bible, justement de ce que nous voyons ce soir. Donc, Saül semble avoir mis au point déjà les principes de l'armée d'Israël, qui seront ensuite, qui serviront de base à l'armée de David et de Salomon, et ensuite des tribus, au moment de la division des deux royaumes. Pour cela, eh bien, on fait ce qui se fait aujourd'hui aussi dans l'État d'Israël moderne, au point de vue militaire, au point de vue de la... Il y a dans le pays différents points forts, des points de rassemblement où il y a des garnisons, les garnisons justement de l'armée de métier, et qui servent de points de ralliement dans la mobilisation. Lorsque on appelle les réserves aux armes, ces derniers se rassemblent dans ces points forts où va être organisée donc les opérations militaires proprement dites. Tel El Ful était le QG, on peut dire, le point central de l'armée de Saül, puisque Saül était essentiellement un roi soldat, c'était un chef de guerre beaucoup plus qu'autre chose, et toute la vie de Saül a été marquée par des combats essentiellement contre les Philistins. Donc il semble que Saül ait réussi à éliminer les Philistins du cœur de la montagne, là où justement ils avaient établi leur protectorat sur Israël, pourrait-on dire, en s'emparant d'abord de Michmas. Nous lisons ça justement dans le récit biblique qui nous rappelle la guerre de Michmas, où Jonathan est allé à l'attaque avec son seul écuyer de ce point fortifié des Philistins qui se trouve à quelques distances de Tel El Ful en direction du désert. Et là, donc, ce point fort étant tombé, il semble que les autres garnisons philistines qui se trouvaient dans la région sont également tombées. On peut penser que Tel El Ful est tombé aussi à ce moment-là. Donc, Saül a reconstruit une forteresse en forme de quadrilatère. Donc, muraille casementée, bien sûr. C'est là que se situent tous les épisodes qui nous sont rapportés dans la Bible. Hein. David était un des membres de l'armée de métier de Saül. Et l'histoire, vous savez, quand il a essayé de le percer avec la lance parce qu'il n'était pas là, que Jonathan a fait alliance avec lui, c'est évidemment là que ça s'est produit. Bon, il y avait alors ensuite ici ce quadrilatère qui était relativement... faisait quoi, peut-être 80 mètres sur... disons ici peut-être une cinquantaine quoi, à peu près. Voilà. Et là, donc, si vous voulez, évidemment, les points faibles du système étaient les quatre angles. Alors, pour fortifier les quatre angles, Saül a construit des redoutes. Donc ça nous donne une structure à peu près de ce type. Alors elle aussi, qui est casematée, ça veut dire que là nous avons à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Hein? Les quatre fois. Bon. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce qui a été fouillé, si vous voulez, ce qui a été fouillé par les archéologues, c'est essentiellement ce secteur. Voilà. Ça veut dire ici le secteur sud-ouest. Tout ça, si vous voulez, on a fait des sondages, ça veut dire qu'on sait à quoi ça correspond, mais si vous voulez, ça n'a pas été mis à jour comme cette partie-là. Donc tout ça, c'est toujours pareil, les fouilles, c'est bien gentil, mais ça coûte. Et par conséquent, au bout d'un temps, on se lasse. Hein. On se lasse, pas tellement les archéologues. Les archéologues, si on leur donne l'argent, ils sont prêts à aller plus loin. Mais c'est ceux qui financent qui, en général, au bout d'un temps, coupent le robinet. Quoi. Alors ça, c'est un peu embêtant. Bon. Alors, ça, c'est, si vous voulez, la plus ancienne trace d'une architecture militaire israélite que l'on trouve dans le pays. Après cela, justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut attendre l'époque de Salomon. À l'époque de David, nous avons peu de choses. Nous allons voir quelques traces à Jérusalem, quelques traces de fortifications de Jérusalem, mais finalement, très peu de choses. C'est essentiellement Salomon qui sera le grand bâtisseur, comme la Bible nous le dit, qui lui a laissé alors des monuments assez impressionnants. Bon, les techniques de construction sont aussi tout à fait nouvelles. Jusqu'alors, on construisait essentiellement avec des pierres sèches. Hein, des pierres sèches avec ou sans ciment. À partir de Salomon en particulier, donc vraisemblablement de David aussi, mais enfin disons, les premières traces apparaissent vraiment avec Salomon, on a une nouvelle technique qui est la technique de la pierre taillée. Les pierres taillées par Salomon sont très très caractéristiques. On ne peut pas s'y tromper. C'est ce que j'écrivais d'ailleurs au directeur de West France quand on a contré Finkenstein qui disait qu'il n'y avait aucune trace à l'époque de Salomon. N'importe quel amateur ou quel débutant en archéologie, du premier coup d'œil, sait reconnaître une structure salomonique, ne serait-ce qu'à la manière dont la pierre est taillée. De la même manière qu'on reconnaît du premier coup d'œil une pierre de l'époque d'Hérode, parce qu'elle a aussi une taille, n'est-ce pas, une manière de tailler, on appelle ça situt en hébreu, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs, une taille, oui, on dit ça, tu ne sais pas, bon, enfin, peu importe, tout à fait caractéristique. D'abord, on voit très bien sur la pierre elle-même les traces du ciseau qui a permis justement de tailler la pierre. Par exemple, on voit, ici vous avez des espèces de, ça fait des espèces de, un truc comme ça, quoi, hein. On voit la trace, quoi, la trace qui a permis de tailler. Et puis surtout ici, il y a une espèce de bossage, si vous voulez, comme ça. Si bien, si vous voulez, que les pierres vont pouvoir justement ici s'encastrer les unes dans les autres. Et alors justement, elle va aussi, alors ça c'est quand on prend la pierre en main, et puis aussi la technique de construction, c'est qu'elles sont têtes bêches. Voilà, vous avez une pierre comme ça, vous avez une pierre comme ça, puis une pierre comme ça, et ça continue comme ça. Hein. Jusqu'au moment où on arrive par exemple à un angle, alors à un angle vous allez avoir aussi justement alors une finition qui va être souvent faite par des détails arrondis, pour que justement les angles, éventuellement, dans un combat notamment, justement, ne viennent pas blesser les combattants qui pourraient éventuellement se précipiter contre elles sur les angles, quoi. Alors ça, c'est prévu aussi pour ça, oui, ça a été très étudié. Bien, alors, parfois on a deux pierres qui peuvent aussi d'ailleurs être se lever toutes les deux, et deux autres baisser, ça dépend aussi de, si vous voulez, de la mesure de la ligne de pierre que l'on mettait de cette manière-là. Maintenant, la Bible nous dit des choses très intéressantes en ce qui concerne Salomon. Il nous est dit, par exemple, que Salomon a construit des villes de garnison, notamment pour les chars. Nous savons que le char était employé évidemment par les Canadiens, puis par les Philistins, nous en avons déjà parlé, et que justement le char de combat était un instrument militaire extrêmement important, c'était l'arme absolue de l'époque, si vous voulez, mais sa mise en œuvre était complexe. D'abord, il fallait des élevages de chevaux, c'était particulier. Les chevaux étaient aussi c'était produits d'importation. Les centres d'élevage équestre étaient essentiellement l'Égypte et la Mésopotamie, et les pays de Syrie, du Liban, n'avaient pas tellement de lieux qui étaient propices à l'élevage des chevaux, si ce n'est sur le Golan justement. Mais le Golan, à cette période-là, n'était pas obligatoirement non plus entre les mains des Israélites. Il y avait des royaumes araméens qui se trouvaient dans cette région. Et toute cette région de la Transjordanie a été l'objet d'une contestation entre David et les Araméens pendant pratiquement tout le règne de David. Ce n'est qu'à la fin du règne de David que cette région a été entre les mains des Israélites d'une manière certaine. Bon. Donc ça, c'est déjà un premier problème, l'approvisionnement en chevaux. Deuxièmement, il faut la technologie pour fabriquer les chars. Une technologie qui fait appel à des métaux. Hein, de plus en plus, on fait appel à des métaux pour fortifier le char, ne serait-ce justement que pour fortifier les roues, les essieux, etc. Les Philistins sont ceux, justement, qui vont utiliser le fer pour les parties les plus délicates du char, ce qui va faire que les chars philistins vont avoir aussi un avantage sur les chars égyptiens, par exemple, ou cananéens. Et puis ensuite, il faut aussi la technologie de l'arc composé, puisque le char, nous l'avons vu, est essentiellement une plateforme de tir pour l'arc composé. Ça aussi, c'est une technologie qui dépasse au départ celle des Israélites, tant et si bien que pendant longtemps, les Israélites n'auront pas de chars. Cette lacune ne les gêne pas tellement, dans l'époque des juges en particulier, où ils combattent essentiellement dans la région montagneuse, région dans laquelle les chars de combat ne peuvent pas évoluer facilement, nous l'avons vu la dernière fois. Par contre, à partir du règne de David, les Israélites vont descendre dans les plaines, et là, ils vont être confrontés justement avec les chars de combat de l'ennemi. Ce sera aussi le cas en Transjordanie d'ailleurs, dans les guerres que David aura menées dans cette région. Et là, les victoires des Israélites auraient pu, auraient dû, à la limite même, on pourrait dire, les amener à mettre la main sur des chars de combat en tant que butin, ce qui a été le cas. Et la Bible nous dit que, bien loin de les réutiliser, David les a détruits, les a brûlés, et a coupé les jarrets des chevaux pour que justement ils ne soient plus aptes à la course. Autant dire que du temps de David, les Israélites étaient incapables de maîtriser justement la technologie du char de combat. Donc, pendant le règne de David, il est à peu près certain que l'armée d'Israël n'avait pas justement d'unité de charistes. Il semble qu'il y ait eu des unités de méharistes, puisque nous entendons dire que David avait des gens qui étaient spécialisés dans l'élevage des chameaux. C'est curieux justement qu'il n'y ait pas eu de développement du char de combat, parce que David ensuite a mis son protectorat sur les villes philistines qui eux maîtrisaient parfaitement justement la technologie du char de combat, mais pour des raisons qui un peu nous échappent, David n'a peut-être pas vu, oui.
Est-ce que c'est pas aussi à cause de, si on peut dire, les constitutions entre guillemets qui avaient été posées au début du règne de Saül par Samuel, qui
il n'y aura pas beaucoup de chars et de chevaux.
C'est possible. D'avoir des chevaux pour
C'est possible.
Pour les chars de combat.
C'est possible. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu dans les armées de David d'unités de chars de combat organisées en tout cas en grandes unités. Peut-être qu'il y a eu des petites unités légères, des choses comme ça, mais sans plus quoi. Par contre, tout change avec Salomon. Salomon, qui lui d'abord va contrôler les routes, les grandes routes qui traversent le pays, la route de la mer, qui va depuis l'Égypte jusqu'en Mésopotamie en longeant la côte, d'où le nom de route de la mer, la côte du Sinaï, puis la côte d'Israël, qui remonte ensuite en Anatolie, Asie mineure, et puis une autre branche qui traverse le Wadi Hara, débouche dans la plaine d'Israël à Megiddo, remonte à l'ouest du lac de Tibériade, traverse le lac au pont des filles de Jacob, direction le Golan, Kounetra, Damas, Tadmor et la haute Mésopotamie. Ça, c'est la grande route internationale depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est encore aujourd'hui une route essentielle. Et ça, justement, c'est une des raisons aussi de la géopolitique du conflit israélo-arabe actuel. C'est que, justement, Israël contrôle une route qui est essentielle pour le monde arabe, hein, puisque c'est la route qui met en relation les pays d'Asie, les pays arabes d'Asie, Syrie, Irak, Iran, etc. Et puis ceux d'Afrique, à commencer par l'Égypte, la Libye, le Maghreb, etc. Quoi. Ça, cette route est coupée par l'existence d'Israël. Bon. Il y avait une autre route essentielle aussi, qui alors était ce qu'on appelle la route du roi, sans qu'on sache pourquoi d'ailleurs, qui alors partait du sud du golfe de Suez, hein, de Suez, de la ville de Suez actuelle, si vous voulez, depuis la mer Rouge, quoi, hein, traverser le cœur du Sinaï par les passes de Djidi et puis Mitla, hein, rejoignez le golfe des Lattes, rejoignez Lattes, d'ailleurs aussi, c'est une des raisons toujours de la géographie, de la géopolitique du conflit israélien aujourd'hui, puisque Eilat, 12 km, sont entre les mains d'Israël et coupe cette route pour les Arabes. 12 km et c'est tout, 12 km, et cette route est impraticable aux Arabes. Hein, c'était la route des pèlerins, depuis toujours, depuis Mohammed, pour les pèlerins qui venaient d'Afrique, qui allaient justement à la Mecque. C'était la route de la Mecque, elle est coupée. Bon. De là, donc, elle remontait dans la Arava, en direction du sud de la mer Morte, passait à l'est de la mer Morte, rejoignait les crêtes de Moab, Ammon, Gilad, Bashan, et là, rejoignait la route de la mer à Damas. Elle se confondait avec la route de la mer. Bon. Salomon contrôle ces deux routes, grâce aux guerres qu'a menées son père. Et ce faisant, donc, il a, entre ses mains, le monopole du commerce international. Tout le commerce qui va d'Égypte en Mésopotamie est obligé d'emprunter obligatoirement une de ces deux routes. Mais aussi, le commerce qui vient de la mer, hein, de la mer, c'est-à-dire depuis les cités de la mer, et notamment les villes de Phénicie. Là, il y a un autre phénomène qui joue, si vous voulez. Le commerce de la mer Méditerranée, depuis l'époque de l'ancien empire égyptien, était aux mains d'une espèce d'alliance qu'il y avait entre l'Égypte et les cités phéniciennes de cette région, c'est-à-dire Tyr et Sidon, Arvad, Byblos, Ougarit, Rachama, tout ça. Bon. À partir du déclin du nouvel empire, si vous voulez, égyptien, les Grecs, donc, ou, disons, les Grecs d'une manière générale, les peuples de la mer, si vous voulez, les Occidentaux, disons, les Européens, hein, vont contester aux Phéniciens le monopole du commerce en Méditerranée. Et lorsque les peuples de la mer, donc, s'établissent sur les côtes du Levant, car les peuples de la mer, dans la première expansion, vont aller depuis le delta d'Égypte, depuis Gaza, jusqu'en Anatolie. Toute la côte va être entre les mains des peuples de la mer. Ça veut dire que c'est la fin du monopole phénicien et égyptien sur les échanges maritimes. Ce sont maintenant les Occidentaux qui ont entre les mains le monopole de ce commerce. À partir du moment où les Philistins sont vaincus par David, à nouveau, si vous voulez, il y a essor des cités phéniciennes. Les cités phéniciennes prennent avantage de ce déclin philistin pour retrouver leur rôle ancestral de puissance maritime. Et c'est la deuxième expansion des Phéniciens dans l'histoire. Bon, c'est aussi à nouveau une alliance avec l'Égypte. L'Égypte qui a toujours été une puissance maritime, alors à la fois sur sa façade méditerranéenne et aussi, bien entendu, au sud, en direction de la mer Rouge et du golfe Persique. Et là, justement, l'État de Salomon va jouer un rôle de trait d'union entre ces deux puissances maritimes. David, déjà, s'était allié avec Hiram, roi de Tyr, qui était la grande cité maritime de cet endroit. Et Salomon s'allie avec Pharaon. Il épouse la fille de Pharaon. Par conséquent, ici, il y a une alliance, si vous voulez, à trois pivots, si j'ose dire. L'Égypte, Israël et la Phénicie. C'est un partenariat commercial. Bon. Mais, la principale puissance commerciale, c'est Israël. Parce que, justement, elle est la plaque tournante où tous ces échanges vont passer. Aussi bien en ce qui concerne ce qui vient par des caravanes depuis la Mésopotamie ou l'Égypte, que ce qui vient par mer depuis la Phénicie ou l'Égypte au sud. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Nous entendons dire que la reine de Sheba vient en visite à Jérusalem. Bon. Elle vient pour des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons commerciales. Parce que les royaumes de l'Arabie du Sud, Sheba, Séba, ne pas confondre, justement on l'appelle toujours la reine de Séba, Séba était un autre royaume. La Bible fait de cette reine la reine de Sheba, du royaume de Sheba et non pas du royaume de Saba. Ça c'est la confusion qu'on fait toujours. Bon, mais il est certain que tous ces royaumes qui se trouvaient des deux côtés finalement de la mer Rouge, aussi bien, si vous voulez, sur la côte arabique de la péninsule et la côte sud, Aden et le Yémen actuel, si vous voulez, que de l'autre côté, ça veut dire l'Éthiopie, l'Érythrée actuelle, étaient des royaumes qui avaient développé tout un commerce depuis la plus haute antiquité qui était très, très important dans l'Orient ancien. C'était le commerce des épices et des aromates. Les aromates étaient indispensables dans tous les cultes de l'Antiquité, car dans tous les temples du Moyen-Orient, on brûlait de l'encens avec les sacrifices. Et les Sabéens, c'est-à-dire les habitants justement de cette partie du Moyen-Orient, avaient le monopole justement de la culture et de la diffusion des aromates, qui servaient aux parfums que l'on faisait brûler dans les temples et accessoirement aussi, bien entendu, dans les palais des rois. Donc les Sabéens, depuis la haute antiquité, la plus haute antiquité aussi, ont développé des réseaux commerciaux pour écouler leur production. Et les Sabéens étaient en plus de ça des peuples du désert. Les Sabéens étaient des gens qui connaissaient justement les routes du désert. Et notamment qui avaient les moyens aussi pour cela, le chameau. Bon, chameau plus route du désert a fait la fortune de ces gens-là. Et les Sabéens ont pris le monopole du commerce, des aromates, des épices et en fin de compte de tout ce que l'Orient ancien avait de plus précieux. Bon, on voit ça déjà par exemple à l'époque de Joseph. Joseph est emmené en captivité par des Madianites mais aussi des Ismaélites. Ça veut dire que c'est des peuples qui sont apparentés avec tous ces peuples du désert. Bon, les pistes du désert, ce n'est pas quelque chose qui est facile à franchir dans l'Antiquité. Il faut connaître parfaitement le désert pour ne pas s'égarer. La plupart, justement, des Israélites étaient non pas de vrais nomades, mais des semi-nomades. Ça veut dire des gens qui nomadisaient essentiellement l'été, mais qui, en général, se sédentarisaient l'hiver. Se sédentarisaient d'une manière temporaire aux limites du désert. D'où la fête de Soukhot. La fête de Soukhot était la fête qui célébrait justement le passage de l'été à l'hiver, à la saison des pluies. Ça veut dire que à la fête de Soukhot, on cessait les transhumances d'été et on se sédentarisait pour l'hiver pendant la saison des pluies. À Pâques, ou à s'arrêter les pluies, on repartait pour la transhumance. Si bien que les Israélites connaissaient les franges du désert, mais ils connaissaient mal le grand désert. Et quand ils vont s'enfoncer dans le Sinaï en particulier, ils vont avoir besoin de guides. Jéthro et les Kenyans, toutes ces peuplades qui sont apparentées à Jéthro, aux Madianites, aux Ismaélites, aux Amalécites, sont des peuples, des vrais nomades, des peuples du désert, qui connaissent parfaitement les pistes. Et Moïse dit à Jéthro, ben, tu nous serviras de guide, justement. C'est tellement important, parce que si on s'égare, eh bien, c'est la mort. Hein, on s'égare loin des points d'eau, c'est la mort. Et c'est la raison pour laquelle personne ne peut entreprendre un commerce d'importance au travers du désert s'il ne connaît pas parfaitement les pistes du désert. Or, justement, les Sabéens et tous ces peuples arabes, disons, qui nomadisent dans toutes ces régions-là, sont les seuls qui connaissent parfaitement les routes du désert. Mais connaître les routes du désert ne suffit pas. Il faut avoir les moyens, justement, d'entreprendre ces expéditions lointaines qui vont depuis donc, le sud de l'Arabie jusqu'en Mésopotamie. On remonte jusqu'en Mésopotamie avec des caravanes de choses précieuses, en Anatolie, etc. quoi, hein. Alors il faut aussi eh bien, des véhicules. Des véhicules pour transporter tout ça. Bon, il y a deux types de véhicules, en général, au Moyen-Orient, si j'ose dire. On peut parler comme ça. L'âne, d'abord. L'âne qui, contrairement à une opinion très répandue, n'est pas un objet de consommation courante. C'est un objet de luxe. Posséder un âne, c'est... Ben, si vous voulez, l'âne, à cette époque-là, c'est à peu près l'équivalent d'une Mercedes aujourd'hui. C'est à peu près ça. L'âne est le moyen de transport idéal pour les marchandises essentiellement, accessoirement pour les individus, mais en général on se déplace à pied. Bon. Seulement, alors ensuite il y a un autre animal aussi qu'on peut utiliser de cette manière-là, c'est le bœuf attelé, avec des chariots, on a vu ça avec les Philistins aussi la dernière fois. Le cheval n'est pas utilisé à cette période-là comme un animal de trait, non plus comme une monture. Il faut attendre l'époque perse ou à la fin de l'époque assyrienne, très exactement, pour que l'on voit, par exemple, les premières unités de cavaliers montés. Le cheval est essentiellement un animal de guerre. Il est donc toujours utilisé, attelé à un char. Bon. Seulement, l'âne, et en plus forte raison le bœuf, est incapable de traverser le désert. Et c'est pourquoi... L'âne ne peut être utilisé que par des semi-nomades. Les vrais nomades ont besoin d'un animal plus sophistiqué, si j'ose dire, que l'âne, le chameau. Et le chameau est évidemment un animal particulièrement adapté. Je me souviens d'un cours entier que j'ai eu quand j'étais à Jérusalem sur le chameau. Et notre professeur nous avait prévenu, mon prochain cours sera tout entier consacré à un chant de gloire. Pour chanter les louanges du chameau. Et ainsi on fut-il. Pendant une heure, on a eu donc à droit à un cours sur le chameau. Je vous le résume en quelques mots. Je ne vais pas vous faire tout un chant, un psaume. C'est un psaume. Je vais chanter un psaume à la gloire du chameau. Shiralel. Allel. Alléluia. Bon, le chameau est un animal parfaitement adapté au désert, par bien des aspects. D'abord, le chameau, vous savez, sa principale qualité, c'est qu'il peut franchir des grandes étapes sans boire. Et ça, c'est son gros avantage. Bon, c'est le dromadaire, en fin de compte, si on veut être vraiment puriste. Hein. Le chameau, véritablement, n'est pas connu en Israël. Le chameau a deux bosses, le dromadaire en a un. Mais enfin, disons, on appelle ça chameau. La Bible appelle le chameau... Continuer à parler de chameau aujourd'hui, tout en sachant que les zoologistes puristes appelleront ça un dromadaire. Bien. Donc le chameau peut franchir de grandes étapes sans boire. Et ça, c'est très important, quand notamment il y a des puits qui sont très éloignés les uns des autres. Ce qu'un âne ou ce qu'un bœuf ou même un mouton, une chèvre ne pourrait pas faire, parce qu'il faut des puits qui sont rapprochés, qui ne dépassent pas une journée d'étape. Hein. Un âne ne peut pas faire plus d'une journée sans boire. Bon. Un chameau peut faire plusieurs jours. Ça, c'est le gros avantage. Deuxièmement, le chameau peut se déplacer sur de grandes distances rapidement. Il a les pieds, si vous voulez, parfaitement adaptés justement au sable. Il a une espèce de corne très dure sous la plante du pied. Il a 5 doigts qui sont très, très en éventail comme ça, si bien que, si vous voulez, il a une grosse assise dans le sable. Il ne s'enfonce pas dans le sable. Donc, il peut galoper dans le sable. Vous avez vu ça, quand vous faisiez du chameau? Ça, c'est comme ça, il galopait?
Mais il galopait pas,
parce que vous étiez dessus, oui, c'est ça. Oui. Il risquait de vider les étriers, quoi. Deuxièmement, le chameau peut se contenter d'une diète aussi extrêmement, extrêmement maigrichonne, comme celle qu'on trouve dans le désert, ça veut dire des plantes épineuses en particulier. On peut dire que le chameau a un véritable gosier blindé, si bien qu'il peut avaler des plantes qui ont des épines longues comme ça, sans que ça lui cause le moindre désagrément ni au palais, ni à la langue, ni à l'estomac. Et enfin, le chameau aussi a... Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un enfant. Le chameau a la possibilité de porter de lourdes charges aussi pendant donc de très très longues distances. Si bien que justement, le chameau est vraiment le vaisseau du désert par excellence, notamment à cette période-là. Alors, si l'âne, à cette époque-là, est une Mercedes, le chameau, c'est... C'est une Cadillac, je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est... Bon. D'ailleurs, c'était la dot des femmes. Plus la femme était belle, quand on épousait une femme, plus elle valait de chameau. Alors, une femme vraiment, le top niveau de l'époque, c'était 5 chameaux. Jusqu'à peu d'ailleurs, chez les femmes bédouines, c'était comme ça. Ça voudrait dire que... Plus une femme est belle, plus elle est chamelle. Je ne sais pas si c'est comme ce que les bédouins le considèrent. Mais enfin, bon, voilà, c'était comme ça. C'est pour vous dire que c'était vraiment quelque chose de très précieux que le chameau. Alors, justement, les peuples du désert, pour revenir aux peuples du désert, vont domestiquer le chameau et l'utiliser pour les caravanes. Les caravanes de Sabéens qui sillonnent le Moyen-Orient sont des caravanes de chameaux. Qui donc vont franchir les routes du désert qui sont inaccessibles pour n'importe qui d'autre. Bon, les royaumes du sud de l'Arabie sont ceux qui, à l'époque de Salomon, possèdent justement le monopole de ces routes commerciales du désert, qui part depuis l'Arabie du Sud, qui remonte donc jusqu'au golfe des Lattes, de là qui se prolonge jusqu'en Égypte, d'autres qui remontent dans direction du pays des Philistins, Gaza, etc., les ports de la Méditerranée où sont embarquées justement les marchandises, d'autres qui remontent en Transjordanie, en direction de Damas, de Tadmor, et puis la Mésopotamie, et puis d'autres qui remontent évidemment aussi en Anatolie. Et puis aussi alors qui font le trafic non seulement de ce qui vient de l'Arabie heureuse, comme on l'appelle, mais également de ce qui vient aussi du légendaire pays d'Ophir. Alors Ophir, ça c'est un autre problème. Il en est déjà question du pays d'Ophir dans les sources égyptiennes. Déjà à l'époque, à une époque très reculée, sous le Moyen Empire, les Égyptiens avaient envoyé des expéditions maritimes dans la mer Rouge, en direction du sud, donc le long des côtes africaines, vraisemblablement. On a retrouvé donc au Zimbabwe actuel des ruines qui datent de l'époque de Salomon, qui sont des ruines phéniciennes. Il semblerait que les Phéniciens avaient établi des comptoirs dans cette région-là. On a pensé que le Zimbabwe, l'Ouganda et toutes ces régions du sud-ouest africain pouvaient être l'Ophir dont il est question justement dans la Bible. À l'époque du Moyen Empire, les Égyptiens, avant l'arrivée des peuples de la mer, avaient envoyé des expéditions aussi dans cette région, et notamment la reine Hatshepsut avait envoyé une grande expédition qui avait ramené du pays de Punt, comme le disent les sources égyptiennes, avait ramené finalement des produits qui ressemblent à ceux qui nous sont évoqués dans le commerce que Salomon avait établi avec le pays d'Ophir, notamment par le port des Lattes. Le port des Lattes, qui avait été construit de toutes pièces par Salomon et qui servait de base à une flotte israélo-phénicienne. Des marins phéniciens étaient venus construire des navires de Tarsis, ça veut dire des navires marchands, hein, c'est-à-dire des navires qui allaient à Tarshish, et qui se servaient d'Etzion Gever, c'est-à-dire des Lattes, comme d'une base pour le commerce avec non seulement l'Arabie, mais également aussi avec le pays d'Ophir, ça veut dire avec l'Afrique finalement. Alors il y a toutes sortes de théories qui ont été, qui ont été faites sur justement le commerce de Salomon. On ne sait pas exactement. Bon, il y a eu des calculs très savants qui ont été faits compte tenu de la vitesse du déplacement des navires de l'époque. On sait à peu près combien de temps mettaient les navires de Salomon pour une expédition. Donc, compte tenu des moments où les courants étaient contraires, les vents étaient contraires, on a pu calculer que, bon, effectivement, les navires de Salomon pouvaient gagner à peu près justement cette région du Zimbabwe. Peut-être pouvait-il descendre même encore plus bas, en direction carrément du Cap, l'Afrique du Sud proprement dite. Et là, donc, si vous voulez, ils étaient ensuite ramenés depuis Etzion Geber, qui est à l'extrémité du désert, par des caravanes de Sabéens. Donc, si vous voulez, Salomon avait conclu un accord avec la reine de Sheva pour que non seulement cette reine établisse des comptoirs à Jérusalem pour ses aromates, ses épices et tout ce qu'elle avait elle-même à écouler comme produit, mais également aussi pour servir de moyen de transport, je dirais de canal de Suez du désert, par caravane de chameaux, qui remontait donc depuis Eilat jusqu'à Jérusalem. Et au-delà, bien entendu, dans tout le pays d'Israël et jusqu'en Phénicie, bien sûr. C'était un commerce qui se faisait aussi, bien sûr, avec la Phénicie. Et les caravanes qui aboutissaient en Phénicie redescendaient en direction de l'Arabie avec des produits qui venaient, au contraire, de la Méditerranée par l'intermédiaire des ports phéniciens. Donc ici, il y a toute une espèce de trafic international commercial, un réseau commercial, si vous voulez, qui se fait à partir de quatre partenaires, on l'a vu, l'Égypte, Israël, la Phénicie, et quatrième partenaire qui vient un peu plus tard, les Sabéens, la reine de Sheva. Ce commerce explique l'extraordinaire enrichissement qui marque le peuple d'Israël à l'époque de Salomon, et en même temps explique le fait qu'il va y avoir justement toute cette alliance qui était évoquée notamment dans le psaume 72, Salomon qui domine d'une mer à l'autre, les rois de l'Orient qui apportent des présents, etc. Bon, bien entendu, Salomon prend sous forme de présents, en fin de compte, des taxes. Les présents en question sont des taxes sur les marchandises qui traversent le pays d'Israël. On accepte de transiter, de laisser transiter les caravanes, mais à condition évidemment de prendre un pourcentage sur les bénéfices qui sont ainsi réalisés. Et c'est ce qui enrichit évidemment le royaume de Salomon. Alors pour ce faire, Salomon va construire aussi sur ses routes essentielles des caravansérails. Et donc les routes du désert, notamment la route de la Arava, va se couvrir d'une multitude de caravansérails de ce type-là. Caravansérails qui sont des petites forteresses, car non seulement, bien entendu, on trouve là de quoi restaurer les animaux, de l'eau, bien entendu, tout ce qu'il faut pour se nourrir, pour des marchands qui sont là pour vendre aussi les produits locaux, bien sûr, mais on trouve aussi des garnisons militaires, parce que les routes de caravane, évidemment, sont dangereuses. Les pillards, et notamment les pillards du désert, peuvent avoir la tentation d'attaquer des caravanes qui sont chargées de richesses aussi importantes. Par conséquent, pour qu'un commerce fructueux se développe, il faut que les routes soient sûres. Et les caravansérails ont aussi pour mission de servir de garnison militaire qui garantisse la sécurité du trafic qui va sur ces routes. Les caravanes elles-mêmes, évidemment, sont escortées de gens en armes, c'est évident, mais aussi donc peuvent compter sur ce réseau serré de garnisons qui veillent à ce que tout se passe bien. Bon, les bédouins du désert sont pillards par nature. Les bédouins actuels, il faut s'en méfier comme de la peste, ils sont sympathiques, ils sont gentils, ils vous accueillent tout à fait fraternellement, mais dès que vous avez le dos tourné, ils vous volent votre montre, et évidemment, ils vous volent ce qu'il y a dans les voitures, il faut s'en méfier comme de la peste. Ils ont toujours vécu comme ça, leurs ancêtres ont toujours vécu comme ça, et c'est une des lois du désert. On pille ce qu'on peut piller, c'est évident. On vit de pillage, d'ailleurs, pour certaines tribus du désert, c'est le seul moyen de vivre. Les ancêtres de Mohammed vivaient de ça, le rizou. Et c'est resté dans la mentalité arabe aujourd'hui. Le royaume d'Arabie saoudite sont des gens, les véritables arabes, l'oligarchie dirigeante du pays sont des gens qui méprisent le travail. Le travail, c'est pour les esclaves. Les seigneurs du désert vivent du travail des autres. Ils rançonnent les autres. Au mieux, effectivement, on rançonne, si on est le maître de la route. Au pire, on vole, on pille. ça c'est resté aujourd'hui, c'est resté dans la mentalité arabe, et y compris donc de ceux d'échecs modernes. Bien. Il y a des formes nouvelles, plus sophistiquées évidemment que le Rezou d'autrefois, mais finalement c'est la même mentalité. Alors donc, ces forteresses sont là pour veiller à cette bonne garantie. Bon, alors ces forteresses, on les trouve par exemple dans de mains endroits, depuis Tel el-Khelife, qui est vraisemblablement l'Etzion Gever biblique. Vraiment, il y a deux endroits, au débouché, si vous voulez, de la Arava, ça veut dire, si vous voulez, à la zone frontière, pour ceux qui connaissent, entre Eilat et Aqaba moderne, la frontière actuelle entre Israël et la Jordanie, si vous voulez, professeur Nelson Gluck a trouvé dans les années 30 du siècle dernier les ruines d'un établissement salomonien qui était marqué notamment par des fonderies de cuivre. On sait qu'il y avait dans la région aussi des mines de cuivre. Bon, celle de la Arava, alors il y a toute une discussion depuis Nelson Gluck, depuis les fouilles qui ont été faites par le professeur Benno Rothenberg, qui lui aurait démontré que finalement, à l'époque de Salomon, ces mines de cuivre qui ont été exploitées à l'époque égyptienne, à l'époque des juges, XIIe siècle, jusqu'au XIIe siècle, n'étaient plus exploitées par Salomon. Bon, peut-être que oui, peut-être que non, c'est une des discussions en cours entre spécialistes. Toujours est-il que si ces mines n'étaient plus exploitées, on peut penser qu'il y en avait d'autres dans d'autres endroits, puisque justement on a trouvé, à Tel el-Khelife, en tout cas datant de cette période-là, des fonderies de cuivre. Le cuivre était aussi un produit qui était exporté depuis Etzion Gever, vraisemblablement, et qui était échangé contre des marchandises diverses, aussi bien donc l'Arabie que dans le pays d'Ophir. Bon, Ophir, alors là aussi, on peut se demander jusqu'à quel point. Les flottes de Salomon ne faisaient pas le tour de l'Afrique. Ça, c'est une autre hypothèse également. Hein. On sait en tout cas que les flottes égyptiennes, dès le Moyen Empire, avaient réussi au moins une fois ce contour de l'Afrique. Hein. On sait aussi qu'à cette période-là, et un peu plus tard, les Phéniciens, eux, avaient débordé le détroit de Gibraltar, hein, et remonté donc en direction de nos côtes. Jusqu'en Norvège, puisque finalement des bateaux de guerre phéniciens dont on a retrouvé des épaves en Méditerranée ressemblent comme des frères jumeaux aux drakkars vikings. Hein. Il semblerait donc que les vikings aient copié les navires de guerre phéniciens. Bon, ensuite, ils redescendaient le long des côtes du Maroc, du Sénégal, etc. Et vraisemblablement, là, il y avait tout un ensemble de comptoirs phéniciens sur toute cette région. Alors, il n'est pas impossible, il est même vraisemblable que les flottes de l'Antiquité faisaient le contournement de l'Afrique aussi bien par l'Est que par l'Ouest. Et quand elles partaient donc du golfe de Suez, ou bien du golfe d'Aqaba, des lattes, n'est-ce pas, les flottes ensuite repassaient par le détroit de Gibraltar. Et on a retrouvé, par exemple, à l'embouchure du Yarkon, au nord de l'actuelle Tel Aviv, on a retrouvé un reçu datant de cette période-là. Donc c'était une ville philistine sous protectorat israélite à cette période-là, un reçu pour plusieurs lingots d'or d'Ophir qui avaient été ramenés d'Ophir, non pas par le sud, donc non pas par Eilat, mais bien par l'ouest, c'est-à-dire par Tarchish. Tarchish qui était un royaume qui a été... qui a eu son heure de gloire à l'embouchure du Guadalquivir, si vous voulez, et qui était allié avec les peuples de la mer. Et au moment où, justement, les Tyriens et les Phéniciens ont repris le monopole du commerce à l'époque de David et de Salomon, Tarchish est tombé en décadence. Maintenant, on sait aussi que, par Hérodote, que les Phéniciens avaient des secrets de navigation, gardaient ces secrets de navigation d'une manière très, très, très précise. Et Hérodote raconte le cas qu'un navire grec avait pris en chasse un navire phénicien pour essayer de voir justement par où il passait pour franchir ce qu'on appelait les colonnes d'Hercule, ce que les Grecs appelaient les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Et le capitaine du bateau phénicien s'est rendu compte qu'il était suivi par un navire étranger. Alors il est allé délibérément se fracasser sur les rochers, pour que le secret de la navigation, le secret du franchissement du détroit de Gibraltar ne soit pas découvert par les Grecs. Et les Phéniciens faisaient courir des bruits terribles, n'est-ce pas, sur ce qui se passait au-delà des colonnes d'Hercule. Il y avait des monstres marins abominables, vous vous trouvez dans les légendes de la mythologie grecque, qui dévoraient l'histoire des sirènes, tout ça, qui attiraient les marins imprudents pour les emmener se fracasser sur les rochers. Tout ça, c'était des légendes qui étaient diffusées de bouche à oreille par les marins tyriens, pour effrayer justement les autres marins, pour que les empêcher de découvrir leurs secrets de navigation. Mais il est à peu près certain que les Phéniciens avaient de tels secrets. Sont-ils arrivés jusqu'en Amérique? Ça, c'est encore aussi un autre problème. Ce n'est pas impossible. On a retrouvé dans le Tennessee, en tout cas, une pierre qui contenait, sur laquelle il y avait une inscription phénicienne. Inscription phénicienne. Bon, comment cette pierre est-elle arrivée là? Alors, c'est toute la grande discussion. Est-ce qu'elle est arrivée là à une époque récente, ou bien est-ce qu'elle est arrivée quand elle est-elle arrivée? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il y a là-bas une pierre de ce type-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis la plus haute antiquité, il y avait sur les routes maritimes toutes sortes de secrets qui étaient diffusés de bouche à oreille par les spécialistes des routes maritimes et qui sont finis finalement par arriver aux oreilles de Christophe Colomb à l'époque des grandes découvertes. C'était des secrets qui remontaient à la nuit des temps, n'est-ce pas, et qui... On ne sait pas exactement à quelle période, mais on sait qu'il y avait déjà depuis une très haute antiquité, même entre l'Égypte et l'Amérique, déjà des relations maritimes. Ce qu'a prouvé aussi Thor Heyerdahl, comme on dit, je sais pas, quand il a organisé l'expédition du Kon-Tiki, reconstruit un navire de papyrus égyptien, tel qu'il y en avait à l'époque de l'Ancien Empire, et il a réussi sur cette espèce d'embarcation de fortune de traverser l'Atlantique et d'arriver donc de l'autre côté en Amérique. Bon, voilà, donc ça c'est des choses... Alors il y avait aussi des forteresses de ce type-là, donc tout le long de la Rava, ça veut dire depuis Elat jusqu'à Beersheba. Hein. Il y en avait sur les routes qui partaient de Beersheba en direction de Gaza, dont Kadesh Barnea, aussi les routes du désert qui descendaient en Égypte. Hein. Tout le pays était jalonné justement de ces forteresses, qui étaient des forteresses un peu construites d'ailleurs sur ce modèle, hein, c'était à peu près ça, un quadrilatère flanqué de tours qui en faisait une forteresse modeste finalement, juste ce qu'il fallait pour abriter une garnison, relevée de temps en temps avec des unités de cavalerie qui patrouillaient d'une forteresse à l'autre. Elles n'étaient pas très éloignées les unes des autres justement pour qu'elles puissent se prêter main forte les unes les autres s'il y avait des caravanes qui étaient en difficulté et si on apprenait qu'il y avait des pillards qui essayaient justement de molester ces caravanes. Bon, dans les grands centres tels que Beersheba, il y avait des forteresses plus importantes. Kadesh Barnea était aussi donc une forteresse importante. Il y en avait aussi à Arad, il y en avait à toutes, si vous voulez, les villes du sud du Negev étaient aussi des relais pour les caravanes qui ont été construites par Salomon. Et à Arad, par exemple, on a même retrouvé un temple de l'époque de Salomon. Alors, un temple, si vous voulez, qui était construit sur le modèle du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, évidemment, on ne l'a pas retrouvé pour une bonne et simple raison, c'est que il y a la mosquée dessus aujourd'hui, il n'est pas question de faire des fouilles, hélas, ou plutôt, bon, les Arabes font tout pour qu'on ne retrouve plus des traces de cette période-là. Mais on a retrouvé un temple d'Arad, le temple d'Arad qui était construit exactement sur le modèle de celui de Salomon, orienté de la même manière, avec le Saint des Saints. Un autel des parfums à quatre cornes, donc comme celui qui est décrit dans la Bible, et puis aussi alors le Saint des Saints qui était sans statue, sans aucune, simplement une rangée de pierres, hein. Un autel avec quatre cornes aussi, de pierre cette fois-ci, et puis alors l'entrée du Saint des Saints était ornée d'un chapiteau proto-ionique. Et ça justement c'est quelque chose de très intéressant, un chapiteau proto-ionique, ça se présente à peu près comme ça. Et puis, vous avez ici donc, une espèce de décoration qui n'est pas figurative, qui représente, puisqu'on ne peut pas représenter ni la divinité, ni aucun être, mais qui est un petit peu comme aujourd'hui les Arabes, un style, quoi, les arabesques. Hein. Or, ici, vous aviez deux colonnes, deux poteaux qui se menaient, et là, on accédait donc au Saint des Saints. Bon, cette structure a été transportée au musée d'Israël. On peut le voir au musée d'Israël. C'est la reproduction du sanctuaire d'Arad. On retrouve ça aussi à Tel el-Kassileh. Et à partir de cette période-là, se développe justement le chapiteau proto-ionique. Le chapiteau proto-ionique, comme son nom l'indique, est un chapiteau qui vient de Grèce. Il ressemble au style ionique, une grande période de l'architecture grecque, qu'on trouve là-bas dans le pays lui-même. Et on trouve ici quelque chose qui lui ressemble. C'est moins élaboré, évidemment, que le style ionique grec qu'on trouve là-bas, mais, si vous voulez, s'en est directement inspiré. Ce qui montre justement que, vraisemblablement, ce type de structure qui va être adopté par les Israélites, et pas seulement par eux, mais entre autres par eux, et notamment qui aura certainement aussi place dans le temple de Jérusalem, si on pouvait faire des fouilles dans le temple, on retrouverait certainement des choses comme ça, mais qui a donc, si vous voulez, qui montre l'interpénétration qu'il y avait des cultures à cette période-là, depuis l'arrivée des peuples de la mer, donc transmis par les Philistins, aux Tyriens, vraisemblablement, puisque les Tyriens ont été ceux qui ont construit le temple de Jérusalem pour le compte de Salomon, comme on le sait, comme le dit la Bible. Et là, donc, à partir de cette période-là, époque de David et de Salomon, puis époque ensuite des rois d'Israël et des rois de Juda, jusqu'à l'époque perse, nous allons avoir ce type de chapiteau proto-ionique qui va être spécifique à la culture d'Israël, qui est grecque, directement inspiré de la Grèce, mais qui finalement est adopté justement par les architectes d'Israël dans tout ce qui sera construction monumentale, ça veut dire temple ou palais. On trouvera par exemple ça à l'époque aussi à Samarie, à l'époque d'Akab, d'Omri et d'Akab. Bon, alors, oui, nous avons vu Etzion Gever. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Oui, alors je disais, Arad, nous retrouvons ça. Nous trouvons une forteresse aussi importante à Beersheba. Ce temple sera détruit à l'époque par Shishak, à Arad, et reconstruit ensuite, et il va être définitivement rasé par Ézéchias. Ézéchias qui va faire une réforme religieuse où tous les sanctuaires autres que Jérusalem vont disparaître. Et puis cette réforme sera évidemment parachevée par Josias au moment de la centralisation du culte à Jérusalem. Bon, voilà, donc ça si vous voulez en gros. Bien, on en reste là.